Marc-André Leclerc. Il ne fait aucun compromis. Cube Radio. Cube Radio.
Sans plus tarder, allons rejoindre Jérôme Lucier, ancien journaliste là, pour Le Voir et l'actualité. Bonjour Jérôme.
Bonjour Marc-André.
Jérôme, sujet hyper intéressant que j'ai hâte qu'on aborde ensemble, un article là, du New York Times qui dit qu'on n'aurait pas dû laisser nos enfants, que c'est une erreur de laisser nos enfants jouer sur les médias sociaux. Qu'en penses-tu?
Oui, un article très intéressant, publié en fait, c'est une espèce de lettre ouverte, là, un op-ed dans le New York Times qui a été publié il y a 10 jours par un auteur conservateur assez influent qui s'appelle Yuval Levin. Mais plusieurs choses m'ont intéressé dans cet article-là, incluant, je dirais, l'appui presque unanime des lecteurs du New York Times qui sont pas, en général, particulièrement conservateurs. Mmh. Et ce que M. Levin dit, lui, c'est que, comme tu dis, c'était une erreur de laisser les moins de 18 ans accéder aux médias sociaux quand ça a commencé et que il n'est pas trop tard pour corriger cette erreur-là. Et donc, lui, en s'appuyant évidemment sur le constat de tous les problèmes qu'on attribue aux médias sociaux, anxiété, on les connaît. C'est anxiété, dépendance, troubles d'apparence physique, alimentaire, comportement, etc. Lui dit il faut stopper ça et il propose un mécanisme aux États-Unis pour le faire en interdisant à toute entreprise de récolter des données chez des personnes de moins de 18 ans. La loi existe déjà aux États-Unis, mais elle est limitée aux personnes de moins de 13 ans. Mmh. Et lui, ce qu'il dit, c'est ben, c'est assez simple. Il faut simplement augmenter l'âge de 13 à 18 ans et s'assurer de faire une vérification efficace de l'application de la loi, ce qui n'est pas le cas actuellement. Il propose aussi un mécanisme de vérification. Lui propose que ça se fasse par le numéro d'assurance sociale de façon très anonyme et automatique, mais je sais qu'il y a d'autres mécanismes qui existent pour faire ça. Dans son article, il propose aussi d'étendre ce mécanisme-là à la vérification d'âge pour accéder aux sites pornographiques en ligne qui, à l'heure actuelle, sont gratuits et facilement accessibles pour n'importe qui. Et ce sont évidemment des propositions qui choquent. Ben, qui choquent.
Ben, en fait, qu'on peut se demander aussi, Jérôme, comment, tu sais, je veux dire, sur des sites, et puis on va revenir tantôt aux sites pornographiques, là, parce que même ici au Canada, il y a un débat autour avec S210, là, au Sénat.
Mais, que tu connais bien,
mais comment, tu sais, comment, au-delà des médias sociaux plus larges, tu sais, comment on peut, avec un téléphone intelligent, là, c'est tellement facile pour les jeunes. Là, la première chose qu'un enfant va faire de 4-5 ans, s'il est capable d'aller sur YouTube pour regarder des vidéos de chats, là, s'il veut. Là, fait que c'est tellement rendu accessible. Fait que je me dis, moi j'ai des jeunes enfants, 4 ans, 6 ans, comment je. Ils vont pas sur Twitter, ils vont pas sur Facebook, mais comment dans 4-5 ans, je vais être capable de gérer ça, puis si je leur dis de pas y aller, mais ce qui seulement ça va faire pire que si je le fais d'une façon plus contrôlée.
Oui, ben comme je disais, c'est sûr qu'il y a aucune solution parfaite dans aucun domaine, mais de toute façon, la proposition qui est faite, ce n'est pas d'interdire totalement, mais de rendre l'accès à ces plateformes-là, notamment la création d'un compte, dépendant à la limite d'un consentement des parents. Donc, si toi ou moi, on juge que nos enfants rendus à 16, 17 ans, par exemple, ou 15, ou 14, sont assez vieux, ben là, la loi, disons, la proposition qui est faite pourrait toujours le permettre, en tout cas dans le cas des médias sociaux, pourrait le permettre. Mais je pense que cet outil-là pourrait, en tout cas, certainement donner des outils plus importants à des parents qui voudraient contrôler. Moi, ce qui m'a intéressé, entre autres, là-dedans, c'est que c'est une proposition qui est un peu forte et radicale, disons.
Oui.
Mais il y a un débat en cours au Canada. Le gouvernement fédéral étudie actuellement la question des préjudices en ligne. Il y a toutes sortes d'experts qui consultent là-dessus. Puis, ces questions-là ne semblent pas vraiment être à l'ordre du jour. Il y a beaucoup d'attention qui est dédiée à la question des discours haineux, des discours discriminatoires. Puis, d'accord que c'est un enjeu auquel il faut probablement s'attaquer. C'est compliqué, par contre, là, à cause des questions de liberté d'expression. Mais sur des questions comme ça, qui semblent récolter des appuis très, très forts et souvent apolitiques, parce que c'est des questions sur lesquelles on voit que souvent l'électorat, en fait, est assez d'accord, peu importe les allégeances politiques, en particulier sur la question des sites pornographiques, c'est 80% et plus d'appui là, partout où ça a été sondé dans le monde. Il semble pas y avoir de volonté du gouvernement d'aller dans cette direction-là. Donc, j'ai trouvé ça intéressant de voir, en tout cas, qu'aux États-Unis, cette conversation-là semblait, disons, suffisamment avancée pour que des auteurs influents fassent des propositions concrètes dans le New York Times.
Et si on se ramène ici, là, je faisais allusion un petit peu plus tôt, Jérôme, si on revient ici au Canada avec S-210, là, qui est la loi limitant l'accès en ligne des jeunes au matériel sexuellement explicite, je sais que tu travailles là-dessus, tu connais bien ce projet de loi-là. Comment ce projet de loi-là, s'il devient une loi, comment justement il va renforcer justement le fait que les jeunes n'aient pas accès, ne soient pas exposés à la pornographie?
Oui, ben bon, juste à dire, c'est un projet de loi qui a été déposé, qui est piloté par la sénatrice Mireille Deschênes avec qui je travaille.
Oui.
Ben en gros, c'est une loi qui force, en gros, les sites web à implanter des mécanismes de vérification d'âge efficaces. Donc, il y a différentes options qui peuvent être envisagées. Là, ça, c'est des questions plus de technologie pour vérifier l'âge des usagers de ces sites-là. Et si un site ne se conforme pas, c'est-à-dire que si un site ne met pas de barrière à l'entrée là, qui vérifie l'âge, ben le gouvernement peut faire une demande en cour fédérale pour que ce site-là soit bloqué. Donc le site perd son accès au marché canadien. Et donc ça, c'est le mécanisme qui est envisagé. Il y a toutes sortes d'objections, évidemment, de gens qui ont dit « Ah, ça pourra pas fonctionner, les jeunes vont contourner, ça va favoriser les sites illégaux, etc. » Mais honnêtement, quand on creuse un peu dans ces objections-là, c'est sûr que, comme je le disais, il n'y a rien qui est jamais parfait, puis c'est évident qu'il peut y avoir du contournement, mais tout indique quand même qu'une loi comme ça pourrait être en bonne partie efficace.
Et comment, quand tu dis qu'il y a des gens qui disent, est-ce que c'est-tu les gens de l'industrie de la pornographie qui disent actuellement que ça serait plus facile ou les jeunes le contourneraient? Les oppositions viennent d'où?
Il y a deux sortes d'objections, si on veut. Il y a une objection, il y a des objections que je dirais d'espèce de pragmatisme bien intentionné, de dire oui, mais franchement, les jeunes vont trouver des moyens de contourner. C'est des objections qui sont pas idéologiques, là. C'est de gens qui doutent que ça soit possible de faire quoi que ce soit. Ça, je dirais, c'est pas l'opinion majoritaire, mais on entend ça de la part de gens qui, même s'ils appuient l'esprit de la loi, doutent qu'elle puisse être efficace. C'est des objections qui existent, mais moi, personnellement, je considère qu'il faut commencer quelque part et on peut toujours améliorer ensuite. Ce que l'industrie a dit, mais ça, on a un peu fait de la recherche, on a réalisé que c'était probablement faux, c'est qu'en faisant ça, donc en faisant de la vérification d'âge sur des sites, ça allait en fait favoriser des sites illégaux. Parce que, en tout cas, c'est un peu technique, mais ils auraient des moins gros bounce rates sur Google et ça pourrait faire en sorte que les sites illégaux qui ne vérifient pas l'âge soient plus favorisés dans les résultats de recherche Google et donc on redirige le trafic vers des sites pires. C'est un argument qu'on a étudié, notamment en parlant avec Google, et il semble que ce soit pas le cas. Parce que Google est conscient des sites légaux et illégaux et ne favorise pas les sites illégaux dans ses résultats de recherche. Donc, c'est pas vrai que de faire ça enverrait soudain un flux de trafic Internet vers des sites illégaux.
Et ça va être un dossier à suivre parce que le projet de loi S-210 là, est toujours en examen en comité. Jérôme Lucier, un gros merci. À la prochaine.
Merci, au revoir.